À quoi comparons-nous le royaume de Dieu numéro 15 les 10 vierges? L'histoire lire Matthieu 25, 1 à 12. Jésus évoque ici les coutumes matrimoniales de son temps, ne décrivant pas le mariage lui-même mais seulement un fait secondaire. Avant de déterminer la pointe de l'histoire, il sera utile d'expliquer brièvement les usages auxquels allusion est faite et de relever traits du récit qui ne paraissent pas concorder avec la vie quotidienne. 1. Les usages nuptiaux chez les Juifs. La cérémonie de mariage ne consistait essentiellement qu'à emmener, publiquement et au milieu de réjouissances, la future épouse dans la demeure de l'époux. Accompagné de ses amis, le fiancé venait à la nuit tombante et à la lumière des torches chercher chez elle sa fiancée, entourée de ses amis, des jeunes filles non mariées. Cette demoiselle d'honneur, les vierges de la parabole, avaient pour fonction d'aller à la rencontre du marié et de ses compagnons afin de leur faire escorte jusqu'à la maison de la mariée. Alors un cortège de fêtes se formait pour conduire le couple dans la maison de l'époux, où se donnait le festin de noces. 2. La sévérité de l'époux à l'égard des vierges folles. Les retardataires ne manquent pas seulement l'arrivée de l'époux, mais elles sont impitoyablement exclues du festin. On est bien loin ici d'une joyeuse fête de noces. Car dans la vie ordinaire, quel époux, au jour de son mariage, se montrerait si difficile envers les amis de son épouse, membres de son propre cortège nuptial? 3. La folie et la sagesse des vierges. En quoi consiste ce défaut et cette qualité? C'est que 5 vierges n'ont pas pensé à prendre une provision d'huile suffisante, les autres oui. Les vierges folles sont blâmées, non pas pour s'être endormies, car toutes les vierges s'étaient assoupies, mais parce qu'avant le début du mariage elles n'avaient pas fait ce qu'il y avait à faire. Par conséquent, quand le grand moment commence à arriver, c'est déjà trop tard pour qu'elles fassent les préparatifs nécessaires. Ce récit est donc construit de manière à souligner la nécessité de se préparer pendant qu'il est encore temps d'agir. Pour pouvoir participer à la fête, il faut avoir déjà pris ses dispositions afin d'être prêt avant l'arrivée de l'époux. Le contexte, la leçon de ce récit ne peut être correctement comprise qu'en fonction du grand discours prophétique, Matthieu 24 à 25, dont il fait partie intégrante. En effet, replacé dans son cadre historique et considéré en relation avec le contenu du chapitre 24, la parabole s'interprète presque d'elle-même. Retraçons donc, au moins dans ses grandes lignes, ce qui la précède dans le texte de Matthieu. 1. Le ministère de Jésus à Jérusalem. Dans Matthieu 21 à 23, Jésus vit à Jérusalem la dernière semaine de son ministère terrestre. Face à l'opposition grandissante des chefs d'Israël, le Seigneur les avertit, par le moyen de paraboles, des conséquences graves de leur incrédulité, ils seront exclus du royaume, mis à mort et leur ville incendiée. Cette série de controverses culmine dans les grandes malédictions que le Christ lance, en présence des foules, contre les pharisiens et les scribes. 2. Le discours prophétique. Tout l'enseignement des chapitres 24 et 25 est donné directement et en privé, Matthieu 24, 3, aux disciples. Il a trait à l'avènement du Christ glorifié pour exécuter contre Jérusalem et le peuple juif incrédule le jugement déjà annoncé d'une manière voilée. Le discours peut être divisé en deux grandes parties. La première section, Matthieu 24, 4 à 41, répond, en substance, à deux questions posées par les disciples au sujet de cet avènement du Christ contre Jérusalem, quand cela arrivera-t-il et quel en sera le signe annonciateur? Le signe, répond Jésus, sera l'investissement de Jérusalem par des armées païennes, Matthieu 24h15, Luc 21h20. Quant à l'époque de l'avènement, Jésus la place dans un avenir relativement éloigné, avant la disparition de sa propre génération, Matthieu 24h33. Cette indication approximative n'annule pas pour autant le caractère soudain et imprévu de cette venue, car aucun des disciples n'en connaît la date précise, ni le jour, ni l'heure. Le deuxième groupe de textes, Matthieu 24h42-25, 46, est constitué par des exhortations à la vigilance, une vigilance d'autant plus nécessaire que le moment exact de l'avènement reste inconnu. Matthieu 24h42, veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Pour illustrer la nature de la vigilance qui leur est demandée en prévision de ces événements, Jésus propose ensuite à ses disciples un cycle de paraboles et de tableaux, le maître de maison cambriolé, Matthieu 24h43-44, l'intendant, Matthieu 24h45-51, les 10 vierges, Matthieu 25, 1 à 13, les talents, Matthieu 25, 14 à 30, et la grande scène du jugement, Matthieu 25, 31 à 46. De tous ces textes, il ressort que la vigilance recommandée n'est pas seulement spirituelle ou intérieure, mais surtout active dans l'accomplissement fidèle d'une charge reçue et dans une vie dévouée au service des plus petits des frères en Christ. 3. La parabole de l'intendant. Lire Matthieu 24h45-51, Luc midi 41-48. Cette petite illustration met en scène, non pas deux serviteurs différents, l'un bon et l'autre mauvais, mais un seul intendant auquel est confiée la responsabilité de surveiller et nourrir les autres domestiques. Cet intendant peut se comporter, jusqu'à l'arrivée de son maître, de deux façons différentes, soit remplir fidèlement sa fonction, auquel cas il sera fixé dans sa position d'autorité, soit profiter du retard de son maître pour maltraiter ses compagnons et se livrer à la débauche, auquel cas il sera durement châtié. Le Christ adresse cette parabole aux apôtres, qui devaient jouer dans l'Église le rôle d'intendant, 1 Corinthiens 4, 1, 2 Corinthiens 6, 4, 1 Timothée 1h12, ainsi que prendre soin de ses agneaux et les paître spirituellement, Jean 21h15-17, Actes 6, 2, 4, etc. À son avènement pour juger les Juifs incrédules, Jésus demandera compte aux apôtres de l'accomplissement de leur mission dans l'intervalle de temps entre son ascension et son retour. La punition du serviteur, s'il se montre négligent, sera terrible, il partagera le sort des hypocrites et des infidèles. Il sera exclu du royaume et jeté là où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Car, ajoute Jésus à la fin de cette parabole dans Luc midi 48b, on demandera beaucoup à qui l'on a beaucoup donné et on exigera davantage de celui à qui l'on a beaucoup confié. La parabole des dix vierges est donc inséparablement rattachée au discours prophétique adressé par Jésus à ses apôtres dans Matthieu 24 à 25. Elle se place dans la même perspective de l'avènement du Christ pour juger le peuple juif incrédule et non, comme beaucoup le pensent, dans la perspective du retour final du Christ au dernier jour. L'application originelle, le Christ lui-même résume le sens de cette parabole dans le verset qui la termine. Lire Matthieu 25, 13. Il est clair qu'il s'agit ici d'un avertissement solennel à se préparer pour l'avènement futur du Fils de l'homme, c'est-à-dire pour son intervention justicière contre Jérusalem. L'exhortation s'applique originellement aux apôtres, dont certains ne mourraient pas avant d'avoir vu venir le Fils de l'homme contre cette génération adultère et pécheresse de Juifs, Matthieu 8h38-9, 1 et parallèle. Cela dit, quel est exactement la pointe de la parabole? Quel élément nouveau ajoute-t-elle aux nombreuses exhortations à la vigilance qui l'entoure dans ce contexte? Pour répondre à ces questions, il faut tout d'abord résister à la tentation de trop allégoriser les données scéniques de l'histoire, de chercher par exemple une signification symbolique dans la virginité des jeunes filles, dans le chiffre 10, dans les lampes et l'huile, dans le sommeil des vierges, etc. Ces détails font partie seulement de la mise en scène. Il existe pourtant des traits qui se détachent en relief et qui nous indiquent la leçon principale que la parabole doit mettre en valeur. Considérons-les. 1. La formule d'introduction. La parabole commence ainsi, « Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges ». Notons d'abord que le mot « alors » se réfère à l'époque de la destruction de Jérusalem prédite au chapitre 24, au moment où Jésus viendra dans son règne avec gloire et puissance contre la ville rebelle. Cette intervention du Christ dans l'histoire est appelée ailleurs dans les évangiles une venue avec puissance du royaume, Marc 9, 1, Luc 21h31. Ainsi la formule d'introduction ne signifie pas que le règne du Christ ressemblera à des vierges. Le sens est plutôt que ce qui aura lieu lors de cette manifestation éclatante du règne est figuré par ce qui a lieu pour ces dix vierges à la venue de l'époux. Il est moins question du règne lui-même que de la crise par laquelle ce règne sera manifesté aux yeux de tous. 2. L'arrivée soudaine de l'époux. Le retard de l'époux et le sommeil des vierges n'ont d'autre but que d'évoquer l'ignorance des disciples quant au jour et à l'heure où le Fils de l'homme viendra. Il se peut que le cri poussé dans la nuit, « Voici l'époux !» soit à rapprocher du signe annonçant l'imminence de l'avènement du Fils, de l'investissement de Jérusalem par les Romains. Quoi qu'il en soit, une fois ce signal donné, il sera déjà trop tard pour se préparer. 3. La vigilance des vierges. Au niveau du récit, veiller signifie prendre une provision suffisante d'huile. Mais le texte ne précise pas comment cela doit se traduire dans la vie des disciples, seul le contexte montre qu'il s'agit de remplir convenablement la mission d'apôtre et de prendre soin même des plus humbles des frères de Jésus. Quel aspect de la vigilance est donc illustré par la parabole? Ce qui fait que les vierges folles sont perdues, c'est qu'elles n'ont pas pris les dispositions nécessaires quand elles en avaient le temps. De même, si les disciples ne veulent pas se réveiller dépourvus à l'heure décisive de ce jugement, il faudra qu'ils s'y préparent dès maintenant, avant que ce ne soit trop tard et que le temps de l'activité ne soit passé pour eux. Car l'occasion perdue ne se représentera pas, la porte, une fois fermée, ne se rouvrira plus. Jésus avait dit dans Matthieu 24h43, Bible de Jérusalem, si le maître de maison avait su à quelle heure de la nuit le voleur devait venir, il aurait veillé et n'aurait pas permis qu'on perçât le mur de sa demeure. Étant donné l'ignorance du maître de maison, il aurait dû prendre des mesures de sécurité avant la venue du cambrioleur. 4. La punition de l'impréparation. L'époux répond aux vierges folles, « En vérité, je vous le dis, je ne vous connais pas. » Ce sont là les paroles mêmes du Messie juge qui sont mises sur les lèvres de l'époux. Elles se retrouvent en Matthieu 7h23 et Luc 13h25 pour indiquer l'exclusion du royaume messianique et le rejet du coupable par Dieu, comparé Matthieu 24h51-25-30. Les disciples qui se laissent aller à la négligence et ne font pas ce qu'ils ont été chargés de faire risquent de tout perdre et de partager le sort des incrédules. Cette parabole reprend donc le thème d'un retard pour exhorter encore une fois les disciples à la vigilance. Résumons maintenant sa leçon fondamentale, de même que les vierges folles, en ne prenant pas avant l'arrivée de l'époux une provision suffisante d'huile, se trouvaient repoussées du festin des noces, de même les disciples qui n'auront pas fait ce qu'il y aura à faire pendant le temps qui précède l'avènement du Christ pour juger le peuple juif incrédule seront châtiés et exclus des joies du règne messianique. Leçon secondaire 1. Les occasions d'obéir qui sont perdues ne se représentent pas facilement. 2. La vraie préparation spirituelle est celle qui est toujours actuelle. Puisqu'on ne sait pas à quel moment le Christ reviendra, il faut être toujours prêt. 3. Le caractère individuel et personnel du jugement ressort clairement de cette histoire, chacun répondra pour soi-même. De même que les vierges sages n'ont rien pu faire pour remédier à l'impréparation de leur compagne, ainsi il ne saurait être question de donner à d'autres ce qui assure notre propre salut.